S'écarter de la piste, trébucher parce qu'une différence nous pose problème. Un milieu social, familial nous pose problème. Un comportement, parfois malgré nous, pose problème.
Moi je voudrais savoir pourquoi t'es en classe relais.
Il a 19 ans. Il avait 19
pourquoi
ans encore, mais sinon là il en a 40.
Parce que j'avais problème avec des profs.
Des conneries.
Ah bon 27, on retient. Pourquoi 27, parce que tu leur répondais.
Je répondais trop mal.
S'écarter de la piste à cause d'un accident de ski et n'y revenir que privé de ses deux jambes et pourtant décrocher la plus belle des récompenses aux Jeux Paralympiques.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît?
Alors moi je m'appelle Cyril Moret, je suis un ancien athlète paralympique. J'ai notamment fait des jeux en escrime pour des jeux d'été et en ski alpin pour des jeux d'hiver. Et j'ai participé en tout à 7 jeux et j'ai ramené 7 médailles.
Vous avez gagné, est-ce que vous étiez champion?
Oui, j'ai été champion, alors plus en escrime qu'en ski. J'ai gagné 5 médailles d'or en escrime. Et en ski, je suis arrivé à des bonnes performances en championnat du monde. Mais sur les jeux, j'ai participé à 3 jeux d'hiver et ma meilleure place, c'est 4e.
Avez-vous une femme et des enfants?
Alors, j'ai pas une femme parce que je suis pas marié. Mais je suis accompagné. Et pour le moment, j'ai pas encore d'enfant. Enfin, si, je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai un petit chat. Voilà. Ouais.
Cet accident est arrivé?
Donc, ouais, moi je suis en fauteuil roulant et j'ai eu un accident. Un accident quand j'étais un peu plus vieux que toi, puisque j'avais 20 ans. 20 ans et j'allais au ski et j'ai sauté sur une bosse. Et en fait, derrière la bosse, je pensais que c'était complètement lisse et que je pouvais me réceptionner sans me faire mal. Mais en fait, je me suis trompé de bosse. J'étais un peu plus sur le côté de là où je pensais être et j'ai atterri hors piste. Et je suis tombé, je me suis mal réceptionné et du coup, je me suis cassé le dos. Et donc, je me retrouve paraplégique. Donc je suis cassé au niveau du dos et c'est la moelle épinière qui ne fonctionne plus. Et donc ça fait plus de 20 ans que du coup j'ai gagné mon fauteuil roulant qui est mon ami au quotidien.
Avant que vous atterrissiez sur la bosse, vous avez senti que il allait se passer un truc?
Ouais, en l'air, ouais. En fait c'était très court, mais en l'air je sais qu'il va se passer un truc pas bon quoi.
La bosse elle était dure?
Ouais, la bosse sur laquelle j'ai sauté elle était dure. Mais quand j'ai atterri, c'était super dur. Et j'ai pas, tu sais, en ski des fois tu vois des chutes même à la télé. Les mecs ils chutent, ils glissent, ils foutent de la neige de partout. Moi j'ai fait bam. C'est-à-dire que j'ai pas bougé du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire toute l'énergie que j'avais en l'air, et ben ça s'est concentré sur mon dos. En fait, j'ai tout ramassé dans le dos.
Et vous avez eu mal?
Non, comme je te disais, j'ai pas eu mal du tout. Non. Mais je pense que j'ai pas eu mal parce que le choc, ton corps, il envoie des trucs, il sécrète des choses, il se protège. Et du coup, j'ai pas eu mal.
Et vos jambes,
une sorte d'adrénaline.
Ils sont formés direct.
Elles se sont?
Est-ce qu'ils se sont formés direct?
Formés?
Ah, par exemple, là, vos jambes, ils sont comme ça.
Non, mais moi, j'étais allongé dans la neige, hein, mais je les sentais plus. En revanche, direct, j'ai pris mes deux jambes comme ça, juste après, et je les sentais plus. Donc, de suite.
Vous secouez, vous sentez rien?
Rien du tout. En fait, je me fais secourir, et le mec, il y a un moment, le mec me dit monsieur, j'ai votre chaussure. Il avait ma chaussure de ski. Et tu sais ce que ça veut dire, le fait qu'il avait ma chaussure de ski? C'est ce qui se passait pour mon pied. Mon pied était dans la neige depuis une demi-heure. Moi, j'ai eu l'accident, j'étais conscient. C'est-à-dire que j'ai pas perdu connaissance et je me suis pas réveillé à l'hôpital. J'étais conscient, j'ai appelé au secours, les secours sont arrivés, ils m'ont emmené à l'hôpital. Et en fait, une heure après avoir eu mon choc, Et ben, j'étais dans une salle d'opération et je commençais à me faire opérer pendant 7 heures. Et là, je me réveille. C'est là où je me suis en fait enfin réveillé. J'avais super soif et je voyais bien que voilà, j'étais bloqué. Mais dès le départ, je savais que je bougeais plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai commencé à récupérer très très tôt. C'est-à-dire que quand je suis tombé, j'ai pris mes jambes, elles m'appartenaient plus, je les sentais plus. Mais juste après l'opération, je commençais à ressentir en haut des cuisses. Et pendant un an, j'ai récupéré quasiment jusqu'au genou. J'ai récupéré la sensation et des muscles. Et donc en fait, moi j'ai toujours cru que j'allais remarcher. Et il n'y a pas un médecin qui est venu me dire « Monsieur, vous ne remarcherez plus ». Donc j'ai pas connu ça. Mais là où tu as raison dans la question, c'est que il y a un moment, ma vie avait changé. Et puis, de façon assez dramatique. Mais je me suis plutôt, moi, mis dans la situation où je voyais ce que j'avais à gagner pour récupérer. Et ça m'a mis dans une dynamique positive. Et c'est notamment le sport qui m'a pas mal aidé à être mieux dans ma tête. Les gens peuvent imaginer que quand on est en fauteuil, on fait plus de sport. Mais justement, moi, c'est même en fauteuil, il fallait que je fasse du sport. Et donc, j'ai fait tout ce qu'on m'a proposé. Au début, on m'a proposé natation, ping-pong, tir à l'arc, basket. J'ai fait athlétisme. J'ai tout essayé. Jusqu'à ce que je trouve les sports qui me plaisaient le plus.
Et quels sont ces sports ?
Alors, les sports qui me plaisent le plus, c'est... dans les premiers, c'était le basket. Le basket, c'est vraiment génial. En fauteuil, c'est génial. Parce que c'est un vrai sport collectif. J'ai fait un peu de tir à l'arc, c'était sympa. Badminton, j'ai pas du tout réessayé. Et puis après... Pendant que j'étais à l'hôpital, bah, j'ai découvert l'escrime. Et là, bah, j'ai fait vraiment beaucoup d'escrime. J'en ai fait pendant 15 ans. Le ski aussi, j'ai réussi à y retourner sur les pistes et à voir qu'en fauteuil, on arrive à gérer et que ça se passe super bien.
Mais ça, vous avez traumatisé votre chute ?
Ça, c'est une vraie question de journaliste. Alors, effectivement, on pourrait croire que... Il y a un traumatisme lié au ski. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai analysé le truc, c'est moi qui fais un saut et qui fais une erreur, en fait. La montagne, le ski, c'est juste ce qu'on appelle le contexte. Et en vrai, j'avais pas envie d'en vouloir à celui qui avait fait l'erreur, à moi. J'avais pas envie de m'en vouloir. Donc eh ben, on y va, on continue. Et le fait d'être à la montagne, ça m'a pas posé de difficultés particulières. Au contraire, en fait, d'arriver à maîtriser mon fauteuil à la montagne, ça me permettait de renouer avec ce qui me plaisait beaucoup, d'être dehors. Et puis nous, en fait, quand on est en fauteuil, on est souvent confronté à des endroits où on ne peut pas aller. Et à la montagne, c'est quand même un endroit très compliqué. Mais quand on y est, avec du matériel de ski qu'on maîtrise, finalement, on se sent plus à l'aise que beaucoup de gens.
Est-ce que vous avez été victime de discrimination par rapport à votre handicap ?
Au quotidien, c'est pas simple. C'est pas simple parce que la vie, elle n'est pas faite pour les gens en fauteuil. Il y a des gens qui ont d'autres handicaps ou d'autres qui sortent du cadre d'une certaine façon. Et donc tous les jours, il faut un petit peu se battre. Par exemple, comme là pour aujourd'hui, l'ascenseur ne fonctionnait pas. Ou comme tout à l'heure, quand je demande un ticket un peu spécial au guichet de la RATP, on commence à me raconter des histoires de règles, de ceci, de cela. Et je suis obligé de me battre, malgré tout, au quotidien. Tous les jours, je peux être amené à avoir à défendre ma situation, défendre mes droits. Et j'aimerais bien passer de l'énergie à faire autre chose.
S'adapter quand on sort du cadre. Ce que vivent ces collégiens du 9-3 depuis qu'ils sont déscolarisés. Mais il existe la classe relais. Au croisement du sport et de l'art, une pédagogie hors piste dont nous parle Karine Gozio, professeure à Saint-Ouen.
Mon objectif premier, c'est qu'ils redeviennent élèves et avoir confiance en eux. Donc qu'ils aient envie de revenir à l'école et surtout qu'ils aient confiance en l'adulte, parce que souvent ils l'ont perdu en fait.
Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont déscolarisés, c'est à la base, c'est par manque de confiance.
Oui, souvent. Et puis après, on les a souvent mis de côté parce que, comme ils comprennent pas, après, eux, ils font les clowns. etc., etc. Et après, on leur colle une étiquette, même si je suis prof aussi et j'incrimine pas les profs, c'est pas ça, mais ils ont une étiquette, ils restent au fond de la classe et puis c'est un cercle vicieux. Donc, comme ils s'ennuient qu'ils comprennent pas et qu'on peut pas forcément, avec une classe de 25, être qu'avec cet élève-là, mais voilà, c'est pour ça. Ils ont tellement accumulé de retard qu'ils peuvent plus suivre dans la classe où ils sont. Et après, ils perdent confiance en eux. Donc, autant rester le clown de la classe ou celui qui fait des bêtises ou... Voilà.
La bouche est vraiment près du micro. Caméra, génial.
Bon, vas-y.
Je te refais pareil. En mieux, si tu peux. Mais...
Vas-y, ouais. Balance un truc.
Un jour de la rentrée, quand j'allais à l'école, on m'avait présenté tous les profs que je connais pas. Et ma classe, elle était plutôt bizarre aussi. Et deux semaines après, il y a eu ce prof-là qui remplaçait ma prof d'anglais. Et ce prof-là était bizarre parce que ce prof interrogeait que les blancs et nous les noirs, on était à part. Un jour, on a décidé d'aller voir le chef de l'établissement, Monsieur Jacquemus, en connaissance des faits. On a décidé d'envoyer ce prof raciste.
Et ces activités-là de la classe relais, enfin, c'est pas comme un parcours scolaire classique dans le sens où vous faites aussi des choses qui sont pas souvent dans le parcours scolaire, enfin comme
dans les programmes.
Mmh. Je sais pas les sorties artistiques ou les. Les activités. Oui. Est-ce que ça leur apporte ça
aussi? Ben moi, je pense que c'est le mieux, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai voulu travailler en classe relais. Parce que alors, c'est difficile parce que, bon, je ne sais pas après à quelle fin on va avoir cette interview. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les papiers, dans l'officiel, c'est... Bon, voilà, il faut suivre le programme du collège, j'en conviens. Passer par la pédagogie de projet, mais justement pour ça, moi je trouve qu'on est obligé donc déjà de faire avec les profils d'élèves, donc on ne peut pas forcément suivre le programme de 4e ou de 3e exactement comme c'est demandé dans l'officiel. Et moi, ce qui marche bien, c'est voilà, travailler les compétences, par exemple, tu vois, avec toi en français, sur la production d'écrit, mais il y a quelque chose derrière, il y a un but. Tandis que oui, je peux bien leur faire travailler des textes, je peux aussi leur amener le classique. Je pense qu'ils le feraient parce qu'on a un petit comité. Mais je trouve qu'ils ne penseront pas d'eux-mêmes encore. Mmh. Voilà. Et je trouve que tous les projets, ça les sort de leur confort, en fait. Puisque dans les classes, c'est facile. Bon, ben voilà, on leur donne un texte, on leur donne les consignes. Tandis que là, ben, par exemple, toi, t'arrives, on va écrire un texte sur les discriminations, quelles qu'elles soient, par où on pas. Enfin, on ne sait pas d'où on va partir, on ne sait pas où on va arriver, surtout. Mmh. Et c'est là qu'ils peuvent, progresser, déjà. Et puis, ils sont acteurs de ce qu'ils font.
Discrimination noire et blanche. L'histoire des familles où la femme était blanche et le mari était noir. Le frère de la femme qui aimait pas mon frère, il était prêt à se battre. 3 ans plus tard, il s'entraînait à le tuer avec un pistolet. Déterminé à faire la guerre, il avait trop de haine contre mon frère. Ils se sont battus devant chez lui et sa sœur est venue séparer. Ils avaient trop de rage. Il est parti casser la mégane de mon frère. Cela s'est passé le 7 avril 2015. Je suis parti jouer avec mon pote. 19h30, je suis rentré chez moi. J'ai vu ma mère en larmes. Elle me dit que ton frère s'est fait tuer par le frère de sa femme.
Et je pense que les projets servent, enfin, ils avancent beaucoup et je les vois beaucoup plus donc acteurs, assidus, enthousiastes. Quand il y a quelque chose derrière, que ce soit en écriture, que ce soit en vidéo quand on a fait les années avant, en enregistrement, ça n'a rien à voir, en fait.
À travers la rencontre d'un athlète handisport, puis de leur propre parcours témoignant d'une difficulté d'adaptation, le but du jeu de cette année est de faire écrire les élèves sur cette différence qui, par le rejet dont elle est victime, peut devenir discrimination.
Je vais vous raconter mon histoire, elle est plutôt fracassante. Depuis petite, mise dans une cage, j'en ai pris des coups et ça fait mal. J'en ai perdu de chaque côté, en amour ou en amitié. Si tu me vois sourire, c'est que je suis passée au-dessus. Je l'aurais su bien avant, je te jure, je ne l'aurais jamais cru. Peu d'amis, fait entouré de gars, je sais pas ce que je subis. Rejeté, moqué, critiqué dans un lieu très fréquenté. Le dire comme ça, c'est vrai, c'est marrant, mais ça fait mal. On croit que je vais tomber amoureuse de tout le monde, mais ça risque pas perdre de confiance en soi. Et tout le reste est arrivé, seul remède est un youtubeur. Comment t'as aussi, oui. Bien sûr, je me suis remise. Bien sûr, je me suis remise. Hi, another wish, been shining bright. I can see my kingdom now. Quand je rêve, je suis une reine. Toutes ces fois, c'est comme si, fait comme ça. Moi, je ne les cale pas. On choisit pas son travail, sa coiffure, ses amis, sa routine. Parfois, l'amour aussi. Ça passe ou ça casse, mais ça regarde qui?
Si vous avez des conseils à donner à des gens qui sont en situation d'handicap, mais qui veulent faire des choses.
D'accord. Donc en fait, moi, les conseils que j'ai à donner sont à des jeunes handicapés qui viennent d'avoir un handicap récent et aussi aux valides. Parce qu'en fait, ce qu'on dit à des handis, ça sert à tout le monde. Mais ce que je dirais à un handi qui découvre son handicap, c'est de ne pas s'inquiéter parce que souvent, on n'imagine pas tout ce qu'on est capable de faire. Et dans les premiers temps, on voit d'abord ce qu'on a perdu avant même d'avoir pris cette démarche nécessaire qui permet de voir ce qu'on a à gagner après l'accident. Et en fait, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, comme pour tout le monde en fait. La vie, elle mérite d'être découverte. Et donc, il faut avoir une certaine patience. Et après, l'autre conseil que je donne, c'est de positiver. C'est-à-dire que, en fait, au début, quand tu es handicapé, tu te retrouves face à beaucoup d'obstacles parce que la vie n'est plus du tout la même. Et avant, quand tu passais facilement, là, les obstacles deviennent tous un peu plus durs. Et si tu te focalises sur les obstacles, tu vas passer trop d'énergie à gueuler sur la personne qui ne te laisse pas passer à tel endroit, qui ne veut pas t'accepter dans... Moi, je prends souvent les transports, donc j'ai beaucoup d'exemples avec les transports. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un m'empêche, me dise, un chauffeur de bus me dise « ne vous rentrez pas dans le bus ». Voilà. Plutôt que de me batailler avec lui, moi je lui fais ok. Et je bataille pas, je fais comme si je partais et en fait hop, je rentre par la porte arrière. Je m'accroche au bar et hop, je rentre par la porte arrière. Et du coup je m'énerve pas. Après c'est lui qui gueule parce que je suis monté dans le bus alors qu'il savait pas. C'est un exemple. L'idée c'est d'être patient, de découvrir et de positiver.
Et comment vous arrivez à rester positive? Parce que parfois, vous pouvez être découragé. Hein.
Oui, carrément. Mais en fait, moi, je me suis aperçu que quand t'es pas positif, tu n'as pas de force toi-même pour bouger et t'en sortir. Et tu renvoies aux autres une image qui ne les aide pas, eux, à t'aider. C'est-à-dire que personne n'est dans la bonne situation pour aller au-delà. Et alors que quand t'as le sourire, que t'es moteur et que tu dis « Ah ouais, j'ai envie de faire ci », les gens s'intéressent à toi et peuvent après finalement te filer un coup de main parce que quand tu expliques ton projet, tu dis voilà, j'ai envie de faire ça, mais je vais peut-être avoir besoin là et là d'un coup de main. Et les gens, ils sont beaucoup plus moteurs pour venir t'aider. Donc il faut garder cette énergie. Gueuler, râler, se plaindre, ça aide pas. Et dans ma situation, moi j'ai vraiment l'impression que ça me ferait faire mille fois moins de choses.
Et c'est un privilège parfois d'être en fauteuil.
Ouais, c'est une bonne question ça. Alors en fait, ouais, c'est un privilège. Est-ce que c'est un privilège d'être en fauteuil? Oui, c'est un privilège si tu sais l'utiliser d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand tu es en fauteuil, tu obtiens des droits. Tu as des droits, tu passes en premier dans tous les services publics, tu fais plus la queue, tu payes pas les places de parking, tu peux avoir des tarifs dans les musées. Mais en fait, tout ça, c'est des droits que tu peux ne pas utiliser. Il faut que tu sois actif dans ta vie pour que ça devienne des droits. Et après, si tu as des droits, c'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, tu as beaucoup de choses en moins. Et quand aujourd'hui, on me dit oui, tu as des privilèges, moi j'aime bien, je trouve ça rigolo et ça me gêne pas d'en parler. En revanche, ce qui est très clair, c'est que je suis prêt à redonner tous mes privilèges si je récupère mes jambes. Pour moi, il n'y a pas photo. Mais aujourd'hui, n'ayant pas mes jambes...
Ça fait de la peine que vous dites ça.
Ça te fait de la peine ? Bah non, c'est juste un choix. Hein. Moi, je préfère avoir mes jambes. Les privilèges, c'est un petit truc, ça dépanne au quotidien, mais en vrai, c'est pas la fin en soi. Moi, je préférais que, voilà, en claquant des doigts, je récupère mes jambes, ou bien que les scientifiques, les médecins, trouvent une solution à mon problème.
Bah justement, la rééducation, ça va pas vous permettre de récupérer vos jambes un jour ?
Non, la rééducation, ça te permet de mieux vivre avec le handicap. C'est-à-dire que ça t'apprend à rester en bonne santé, à rester actif, à te déplacer, à vivre, mais ça te permet pas de récupérer tes jambes. Et moi, en l'occurrence, à l'intérieur, donc tu connais la moelle épinière, c'est un câble qui part du cerveau dans le dos, tu sais, la moelle épinière, c'est un câble en fait, et il est abîmé à un endroit. Et en fait, c'est tout bête, il suffirait de changer le morceau de câble abîmé et que ça refonctionne. Bon, bah aujourd'hui, les scientifiques savent pas le faire, mais moi, je croise les doigts pour que peut-être un jour, ça m'arrive. Et là, je rendrai tous mes privilèges, ma carte Andy de MDPH, ma carte de parking, je rends tout.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio MLK. Nous sommes le 20 janvier 1992, il est 10h14. Le ciel est dégagé sur Val Thorens. Il fait 17 degrés. Au programme, les colonies de vacances. 7 enfants se sont fait kidnapper par un pédophile qui rôdait autour du camp. Ils se sont fait violer, démembrer et mis dans des sachets qui ont été retrouvés dans un lac au Metz, en Lorraine. Les familles des victimes demandent 10 millions d'euros à la mairie pour ce tragique accident. Et maintenant, le cours de la bourse.
Je me réveille de bon matin. À la fenêtre, le ciel est dégagé. J'ai envie de skier. J'embrasse ma fiancée qui dort encore. Je prends mon petit déjeuner. Pancake, miel, salade de fruits, bacon, jus d'orange, café. Il me faut d'efforts. Je prends mon équipement de ski et je m'en vais. Je prends le télésiège. Je m'élève doucement au-dessus des arbres. Des chemins couverts de neige. Je repère la piste. C'est une piste noire avec des bosses. J'en ai repéré une qui a l'air sympa et me donne du challenge.
J'arrive enfin au sommet pour descendre cette piste. Je skie à une vitesse d'automobiliste, 110 km à l'heure. J'arrive au niveau de la bosse et quand je franchis la montée pour m'élancer, je me rends compte qu'il n'y a rien devant moi. Un immense précipice, mais trop tard. Je vais trop vite, j'avais mal vu tout à l'heure. J'aurais dû mieux me repérer. Et c'est le saut, vertigineux. Impossible de revenir en arrière. Je suis comme en roue libre. Je plane, je trébuche, je ne sais plus. Il y a trop de vide. J'entends un grand boom, moi sur le sol, tombé sur le dos, allongé, j'ai l'impression que je suis mort. Je ne sens plus mes jambes. Je reste longtemps comme ça dans la neige, 30 minutes, je l'apprendrai plus tard, je vois flou.
Je ne suis pas seul, soudain il y a quelqu'un, peut-être un de mes coéquipiers qui vient me secourir. Il a probablement appelé les secours, je vois encore flou, je sens qu'on me soulève par les épaules, je suis à l'hôpital, les grands yeux ouverts, pronostic, je me suis cassé la moelle épinière, mes jambes, je ne les sens plus. Laetitia, ma fiancée, arrive en courant, choquée, demande aux infirmières où est mon Cyril Moret. Il lui répondu patienter et lui donna un verre d'eau puis la réconforta en lui disant
« Votre conjoint est entre de bonnes mains. Le visage de Laetitia devient blême. Elle décida d'attendre des nouvelles dans la salle d'attente. »
Après plusieurs heures d'attente et d'angoisse, le médecin se dirigea alors vers la jeune fille.
Mais moi, je pense toujours, quand je t'ai rencontré la première fois, la première chose dont tu m'as parlé, c'était ce pâtissier.
Ah oui.
Mais moi,
ouais,
ça m'avait touché.
Ouais, ouais, ouais.
Et, tu vois, j'ai encore l'image, j'ai encore la lumière. Je me rappelle, on était à Denfert Rochereau. Ouais. Tu me dis, ouais. Et
quand on te rappelle des années après. Oui, voilà. Oui, quand on te rappelle des années après, surtout. Ouais. Et qu'ils ont pris confiance, c'est surtout ça, en fait.
C'est ça. Mm. Juste, même ça.
Même Simon, je sais pas si tu l'as connu, Simon. Non, t'as pas connu Simon. Il est arrivé en troisième, il était plus dyslexique, plus. Personne l'avait vu. Enfin, personne. Ou en fait, il n'avait pas été suivi, donc il était plutôt dans la rue. Et il arrivait en troisième sans savoir lire ni écrire. Et il est resté un an ici. Et là, il me rappelle tous les ans pour me dire qu'il est content, qu'il passe son BAFA, qu'il va être animateur. Et alors là, voilà, alors que c'était quelqu'un qui ne savait rien faire. On lui a redonné confiance en lui. Il était toujours dans la rue à faire des bêtises. Et en fait, il m'appelait et il me disait « Madame, madame, je suis dans la rue. On ne veut pas que je vienne vers vous. Mais moi, je n'ai pas envie d'aller avec mes potes. Je préfère venir à l'école. » Alors ça, c'était... Ben, je lui dis « Alors, tu passes par un autre itinéraire, je vais te le dire. » Et il est arrivé peut-être un peu après. Mais il contournait tous les amis qui voulaient le tirer un peu vers le bas, quoi.
Sur les réseaux, aucun débat. C'est cagoule, les gantons, on débarque. C'est à 6h que les comptes débarquent. Mais noté, je peux plus vraiment me débattre. Sur un tas mini qui veut le billet. Ta sorcière ne s'attire pas habillé. Le jour de l'an, je suis bien habillé. Le lendemain, je retourne bosser. Le compte de passe, alors que le bosseur, si on te chope, tu finiras qu'à bosser. À fond dans la peuf, musique à fond. Y'a de la peuf, de l'excitation. Mes démons sont sales, toujours à la recherche du bifton. L'assaut à la fille au buisson. Je veux pas te faire un dessin. On est de retour, c'est pour des vrais. Quand on débarque, y'a qu'on les effraie.
C'était Dialogue des secondes chances, deuxième, avec l'athlète en e-sport Cyril Moret et les élèves Wadi, Yasmine, Yacine, Mabana, Ryan, Marie de Saint-Ouen, Valémy, Oumar, Balumba, Priscilla, Dieu le veut d'Aubervilliers, leur professeur Karine Gozio et Latifa Beriel. Professeur interviewé, Karine Gozio. Enregistrement à Radio France, des textes de Priscilla, Oumar, Dieu le veut, Valémy et Yacine. Fiction sur l'accident de ski, imaginé par les élèves d'Aubervilliers. Conception et production, Stéphane Serra et Noël Clément de Jingle Bells Productions. Réalisation et montage, Florence Valero et Quentin Degris.